I never was so slim.
Until Blues and Cool, l'album Hot and Cool. Vous pouvez vous procurer ce disque, on vous l'a dit juste avant, ce titre Sugar Sweet. Vous pouvez vous procurer cet album auprès de Thierry lui-même, voilà, sur Facebook notamment, ou également au 06 77 04 31 33. Voilà, qu'on se le dise. Dans quelques minutes, on aura notre deuxième invité, ce sera au téléphone cette fois-ci, Philippe Fernandez, alias Big Days, qui vient de sortir ce nouvel album qui s'appelle Last Train. Là encore, vous pouvez intervenir sur le Facebook Sweet Home Chicago pour poser toutes vos questions. Voici By Yourself, un extrait de cet album. C'était Big Days, extrait de l'album Last Train, et j'ai Philippe Fernandez au téléphone. Bonjour Philippe.
Salut Marco.
Tu vas bien ?
Bien, et toi ?
Bah écoute, moi ça va super. Alors on t'entend comme si tu étais de l'autre côté de la vitre, alors qu'en fait tu es sur Paris, Amsterdam, dis-moi.
Alors là je suis en région parisienne pour trois concerts ce week-end, même quatre. Donc là je suis en pas très loin, en direction de la Normandie, pas très loin de chez toi, dans le Vexin français.
D'accord, voilà. D'accord. Donc toujours sur la route, toujours avec des concerts sous le nom de Big Days, mais également tu continues à animer des bœufs sur Paris, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais, quand je suis à Paris et qu'on joue le week-end, je reste pour animer des jams blues le dimanche au Sunset. Et puis le lundi maintenant, le rendez-vous du lundi qui est au Caveau de la Huchette. Voilà.
D'accord, Caveau de la Huchette le lundi soir pour les Blue Monday traditionnels maintenant, on va dire.
C'est ça, ça fait plus de 3 ans presque, et ça se passe très bien, c'est sympa. Ouais. Et ça fait découvrir des nouvelles têtes de gamins qui viennent jouer du blues, donc c'est très sympa.
Ça, c'est important, il faut renouveler le public du blues, on n'en parle jamais assez. On se retrouve souvent entre vieux cons, je dis pas pour toi, mais je dis par rapport à moi et les autres amis. Et puis parfois, on se dit, non, pas vous non plus, attends, ils sont gentils les copains, ils sont de l'autre côté de la vitre aussi.
Bon, il y a des jeunes vieux, il y a des jeunes vieux aussi, il y a des jeunes qui sont déjà vieux.
Ah, il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête, c'est clair.
Il y a des vieux jeunes, quoi.
Voilà. Alors, peut-être pour garder un petit peu de jeunesse, justement, se replonger dans ces musiques-là. Et puis, on évoquait tout à l'heure des vieux souvenirs avec Thierry Anctil, que tu connais, forcément.
Ah oui.
On parlait des années 80, on disait peut-être que c'était un peu plus facile de jouer à cette époque-là. Alors, toi, Philippe, tu n'es pas de la même génération, tu n'as pas connu les années 80, si ce n'est en tant qu'écolier, je crois.
Non, je n'ai pas connu. Je ne jouais pas encore.
Est-ce que tu peux nous retracer rapidement ton parcours? Comment est-ce que tu as démarré? Et puis, comment s'en est arrivé à cet album, Last Train?
Pour faire très vite, en fait, le groupe Big Dead s'est formé en 96. Moi, j'étais en banlieue parisienne, je faisais des allers-retours avec mes parents, maison du week-end ou... qu'on retapait le week-end avec mon père, et puis j'avais un copain qui faisait de la guitare, le premier guitariste du groupe, le truc classique, la petite cabane au fond, et puis on s'est retrouvé à deux guitares, après on a appelé un bassiste qu'on a rencontré, un batteur, et c'était pas vraiment Big Dead, et l'année d'après, deux ans après, ça s'est appelé Big Dead, il y a eu Lamine qui était déjà là, il n'y avait pas la Pradal au début, et voilà, donc c'est quand même, c'est le départ, c'est ça, puis au fur et à mesure... On faisait des bars de banlieue, comme tout le monde, de temps en temps. Et après, moi, j'ai voulu aller un peu traîner aux États-Unis, Chicago, Austin et tout ça. Et c'est là que le groupe a commencé à faire des trucs, des compos et du premier album. Quoi.
Ça a été formateur pour toi, ces voyages outre-Atlantique?
Oui, c'est vrai que moi, les seuls vrais bluesmen, entre guillemets, de là-bas que j'avais vu en France, c'était Luther Allison qui habitait à Paris et que j'avais croisé quelques fois, justement, dans les postes qui étaient au front page à l'époque du dimanche. Et ça m'avait donné envie d'y aller. Et c'est vrai que quand tu vas là-bas, tu connais hein, Chicago et tout ça. C'est quand t'es gamin et que tu commences à faire cette musique, c'est vrai que ça te booste vraiment.
Bien sûr, on est plongé. Ouais. C'est du XXL 24-24, hein, franchement.
C'est ça.
Et puis il y a moyen de faire des tas de rencontres. J'ai envie de dire, peut-être en une semaine seulement là-bas, de voir autant de concerts de blues qu'on pouvait en voir en un an en France, quoi.
Oui, c'est pas faux. Surtout au Chicago, le même soir, quoi. Les gars que tu vois dans les festivals ou que tu vois dans les salles une fois par an, là, tu les vois tous, tu traverses même la rue, quoi. C'est à l'époque, ça. C'était comme ça, mais même récemment, j'y suis retourné, c'était encore comme ça. Puis une nouvelle génération qui arrive, c'est vachement bien.
Alors, le public et les musiciens, ça continue à se renouveler. La musique n'est pas tout à fait la même qu'avant. On fait autre chose que les 12 mesures maintenant. Enfin, en tout cas, on s'en rend compte à travers toutes les productions contemporaines. Mais toi, Philippe, j'ai l'impression que, outre le blues, tu mets aussi pas mal de rock'n'roll dans ta musique. Enfin, c'est même pas une impression. Hein.
C'est des influences. Au bout d'un moment, quand tu fais des compos et que tu en arrives au 8e album, tu te poses pas vraiment des questions, mais tu y vas en te disant, bon, ben là, ça me plaît, ce riff de guitare ou cette intro de batterie, essayons d'en faire quelque chose. Et puis tu te rends compte que ça correspond pas à un autre morceau que tu avais déjà fait, donc tu dis pourquoi pas essayer, et puis voilà, puis finalement ça colle. Et c'est vrai que moi j'ai des influences rock anglaise, pop, et autant que du Chicago blues ou du Delta blues, tu vois, pas de souci, quoi. Je veux dire, j'essaye de pas mettre d'étiquette si c'est possible, quoi, quand on fait des compos, quoi. Voilà, quoi.
Alors, je suis en train de parcourir la liste des musiciens qui figurent sur ce Last Train, ton dernier album. C'est absolument ahurissant. Il y a des musiciens qui font partie de ton band, on va dire, au quotidien. Et puis, beaucoup d'invités, des Français, des Américains. Est-ce que tu peux, pêle-mêle, voilà, nous guider au travers tous ces noms?
En fait, il y a des invités, mais finalement, c'est pas des requins de studio ou des gens qu'on aurait juste payé, qu'on connaît pas pour venir jouer. C'est quand même des gens avec qui on a eu une petite histoire avec le groupe.
D'accord.
Autant Eric Sauvia, qui est un super guitariste français de blues, et qui joue pas que ça d'ailleurs, mais moi j'avais vu plusieurs fois, et qui était venu aussi d'ailleurs, c'est le conducteur avec les jams, et on s'était rendu compte que c'est vrai qu'au slide guitare, même Rodolphe, ou moi qui en joue même pas du tout, il est quand même fabuleux, et il est à Paris, il est très sympa, et on l'a invité comme ça. Pareil pour Gordon, tu sais bien que Sax Gordon, c'est un...
Sax Gordon Biddle, ah oui.
Voilà, quand on a besoin de quelqu'un pour écrire les arrangements cuivre, il n'y en avait pas sur l'album précédent, mais là il y en a eu, je me dis pourquoi pas, changeons pas une équipe qui gagne, c'est un copain, il écrit super bien.
La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était, il était dans ton groupe, hein, vous jouiez ensemble à cette époque, déjà.
Ah ben oui, c'est possible, on a même joué au Sous-Bock ensemble.
Exactement.
On a joué à Cognac, on a joué à Cahors, Non, c'est... Et puis après, bon, alors, entre guillemets, la star de blues, encore plus que Gordon, c'est Lucky Peterson. Et puis c'est pareil, c'est quelqu'un... Alors justement, pour revenir à la cabane du début, on faisait des reprises en banlieue parisienne, comme tous les groupes qui commencent, et on reprenait pas mal d'albums, de morceaux d'albums de Lucky. Et c'est marrant que 20 ans après, ils soient invités sur le disque, quoi. C'est...
Ouais.
Alors, pardon, vas-y.
Non, je disais juste souligner que Lucky Peterson joue du B3, tout comme Léa Worms, avec qui tu te produis sur scène, elle. Hein.
Voilà, Léa, elle joue avec nous quand elle a la possibilité d'être 5 et voire 6. Elle joue des claviers, on l'appelle, et quand elle est dispo, bien sûr, et qu'elle a du temps pour jouer avec nous. Elle joue avec nous depuis que Bala Pradal est parti il y a maintenant presque 2 ans.
Oui.
Et ça se passe très bien. Et malheureusement, le disque était déjà, quand elle est arrivée, le disque avait été fait dans la... presque dans la totalité, donc on avait appelé Lorient, qui est un copain, qui est un super clavieriste, Lorient Dair, mais on l'a invité sur un titre, comme ça, il y a quand même son nom sur le nouvel album, quoi, tu vois. Donc,
voilà, Lorient Dair au clavier, également Léa Worms, également carrément Lucky Peterson.
Elle joue sur un titre, ouais, sur un titre.
Et puis, on peut signaler également une autre présence, par quelqu'un qu'on connaît par ailleurs pour faire son propre groupe, c'est Jessie Lee Houillet,
oui,
qui vient faire les chœurs.
Voilà, Jessie, elle faisait les chœurs avec nous... elle fait d'ailleurs toujours des chœurs avec nous depuis presque 4 ans.
Ouais.
Mais en live, on n'avait jamais rien enregistré ensemble. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux participer au nouvel album, est-ce que tu voudrais. Elle m'a dit oui tout de suite avec Léna. Léna Woods, qui joue aussi souvent avec elle dans plusieurs projets, mais pas dans son groupe à elle. Et puis, ça s'était toujours bien passé en concert, en live. Donc, je me suis dit, moi, j'aime bien laisser une trace sur un album de ce qu'on a fait avec des gens ou avec des gens ou des copains qui ont joué avec nous en concert. Quoi. Donc,
c'est quelque chose que tu fais systématiquement, d'inviter des gens, on va dire, extérieurs au groupe habituel, au groupe de base, sur tous tes albums?
Si on a besoin, vraiment, sur un morceau, si on dit c'est bien, ce morceau il serait super avec tel instrument, et que nous cinq ou nous six, on n'en joue pas, je trouve que c'est dommage de ne pas le faire. Il n'y a pas de souci, tout le monde fait ça, de toute façon. Donc même si tu as besoin d'un accordéoniste ou d'un joueur de B3, tu vois, c'est... une section, quoi, c'est pas... Mais je veux dire, là, franchement, sur les invités, et donc j'insiste sur Lucky Peterson qui joue un titre au B3, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie parce que je le connaissais pas humainement, je l'apprécie bien sûr musicalement,
oui.
Mais il venait dans les jams quand il passe à Paris, qu'il a des concerts, il venait souvent nous voir en état, mais moi, on s'en a sympathisé, on était copains, et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais jouer sur un nouvel album, sur un titre? J'en ai un qui va bien te coller, et il m'a dit, ouais, et puis on l'a fait comme ça, voilà.
Steve Belmonte, qui joue de la batterie, joue régulièrement avec toi?
Alors lui aussi, Steve, ouais, c'est quelqu'un qui joue depuis qu'on a fêté les 20 ans, en fait, suite à un accident du batteur qui jouait avec nous avant, qui a un problème au bras. Il nous a fait ça au pied levé, et puis on s'entend super bien humainement et musicalement. C'est quelqu'un qui est vachement pris, qui fait beaucoup de choses.
Eh bien oui, parce qu'il joue aussi avec Gaël Busvel, accessoirement.
Surtout avec Gaël, au départ, c'est pour son projet principal. Mais dès qu'on peut jouer ensemble, on joue ensemble, et ça se passe très très bien, et c'est quelqu'un qui est là donc depuis 2016, donc ça fait 3 ans presque.
D'accord.
Ensemble, quoi.
L'album s'appelle Last Train et on te voit sur la pochette tout seul, en noir et blanc, les yeux un petit peu dans le vague, en train de chercher ta station. Qu'est-ce qui a prédestiné à l'idée de ce visuel, Philippe?
En fait, si tu veux, la chanson, c'est un rapport justement avec... il faut pas rater des fois la dernière opportunité que tu as de faire quelque chose, donc, ou même un train. Bon, je suis bien placé pour en parler, parce que je le prends quand même assez souvent.
Tu dois avoir une carte d'abonnement, effectivement, pour le Thalys, je crois. Hein.
Voilà. Une pochette, c'est toujours difficile, c'est une conception. Moi, j'étais pas forcément pour qu'on me voit tout seul, mais si tu veux, comme on est souvent amené, comme on joue comme assez souvent, et tout le monde a besoin de jouer à gauche et à droite, on est souvent amené à se faire remplacer, autant la basse que la batterie, que les claviers. Donc je me suis dit, pour éviter... d'embrouiller tout le monde, on va noter tout le monde à l'intérieur, et puis on va faire pour une première fois une pochette. Je veux pas faire de la fausse modestie, mais c'est vrai que j'étais pas pour. Tu regardes toutes les autres pochettes, il n'y a jamais eu une pochette où j'étais vraiment tout seul devant. Mais si tu veux, c'est une copine qui a fait la photo, et puis finalement, j'ai trouvé ça pas mal, et tout le monde m'a dit que
ce qui t'a absolument pas empêché de mettre des photos avec les autres musiciens à l'intérieur,
sûr. Je suis pas Jimmy Smith, quoi. Je mets pas des photos de moi partout.
Jimmy Smith, ouais.
Tu vérifieras, j'ai regardé, j'adore Jimmy Smith, j'ai vérifié ça récemment.
Ouais.
Tous les albums que j'ai de lui, il n'y a que lui sur les pochettes à l'intérieur et derrière et dedans. C'est quand même incroyable.
Ouais, je te fais confiance, Philippe, mais c'est assez amusant parce que lui, il en était, parce qu'il est parti, Jimmy Smith, il en était à combien d'albums? 40.
Ah ouais, c'est fabuleux. très
qui
content.
Qui sont, il est déjà 14h15, je sais qu'on a, on a un petit impératif, mais j'ai quand même une autre question. Qui sont les gens qui t'ont aidé à composer pour cet album, Philippe? Parce que ça, c'est important. Alors, la construction, la fabrication, la réalisation d'un disque.
Tout le monde, tous les musiciens qui sont sur la pochette, principalement Steve, Cyril Catois, Steve Belmont, Rodolphe Dumont. Parce qu'en fait, on se retrouve, et même Lamine Garfi, qui est un bassiste qui joue avec nous depuis des années, qui rejoue maintenant avec nous, puisqu'il avait participé aux premières répétitions des compos. Ben, en fait, moi, j'arrive avec des riffs, j'arrive avec des petites idées, et puis je gratouille tout ça, je chante les mélodies, tout ça, chacun met son grain de sel, en fait, chacun apporte son arrangement, donc, en fait, je veux dire, franchement, tout le monde. Après, les textes, l'écriture, moi, j'ai des textes, des scénarios que je mets sur papier, je cherche des mélodies et tout ça, et j'ai des copains américains qui m'aident à les adapter en me corrigeant, si je fais quand même pas mal de fautes en anglais, des choses qui peuvent être corrigées par des copains américains, j'en ai à Amsterdam, dont mon pote Raïm, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait.
Voilà, entre Amsterdam et Paris, de temps en temps aux États-Unis bien sûr, et puis tu continues à te replonger sur Paris pour les jams, on l'a dit en début d'interview, avec ce disque qui s'appelle Last Train, un album qu'on peut se procurer un petit peu partout, Philippe?
Il est sorti le 30 novembre, là, ça y est, il est dans les magasins, il est sur Amazon, sur toutes les plateformes habituelles. Ça y est, on peut se le procurer, quoi. Un seul clic.
Et voilà, donc, merci à toi. Philippe, je sais que tu es pressé, tu t'en vas jouer ce soir, il y a une balance, il y a quelque chose.
Cet après-midi, même cet après-midi, on joue à 16h30, en fait. Et ça va, hein.
Très bien.
Tout va bien.
Voilà, tout pendant que les amis sont en train de déconner dans le studio à plein tube, tout va bien. C'est une très très bonne ambiance ici à Radio 666. Il y a un extrait de ce disque que tu voudrais qu'on écoute là, tout de suite, maintenant, pour terminer cette interview, Philippe.
Oh, bah, tu peux commencer. Si tu ne l'as pas passé, tu peux passer le premier titre. Je ne sais pas si tu l'as déjà passé. Mais
j'ai dû le passer il y a 15 jours, mais ça ne fait rien parce que c'est justement l'album où il y a Lucky Peterson, je crois. Le titre où il y a Lucky Peterson.
Le titre où il y a Lucky et puis où il y a. Et ça ouvre l'album, donc vas-y, n'hésite pas, comme ça tu mets la première plage.
On va mettre ça s'appelle About You. Merci Philippe pour ta disponibilité.
Merci à toi.
Et puis à bientôt sur la route du blues.
Oui, merci Marco, à bientôt.
Au revoir, merci.
Salut. Now I feel so-
C'était Lucky Peterson au clavier, invité sur ce premier titre, comme vous l'a dit Philippe Fernandez tout à l'heure. Big Days, l'album Last Train, on y reviendra bien sûr au cours des prochains Sweet Home Chicago. Voici le disque du mois, c'est toujours Rosedale, l'album Wide Awake. C'est de l'album Wide Awake de Rosedale. C'était The Sun Won't Rise Today avec le batteur Denis Palatin, le bassiste Philippe Sisler, le guitariste Charlie Faber et la chanteuse Amandine Rose, également Johan Delgarde au clavier et puis d'autres invités. que ce soit à l'harmonica, à la trompette ou au cuivre, ainsi que d'autres cuivres, ainsi que au chœur. On peut retrouver également Paul Cox ou Henrik Freischneider. On en avait parlé il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, c'était à l'occasion de l'interview de Charlie et d'Amandine. On poursuit avec une nouveauté, peut-être 2 si on a le temps, avant 14h30, et puis après ce sera notre 3e invité, Yann Charles, dans notre série Les photographes du blues. Voici Seth Rosenblum, c'est tout nouveau, ça s'appelle Keep on Turning, voici le titre album.
Never take for granted what you've always known. Count your blessings and watch your tongue. And take what you can while you're young. Cause as the days keep passing, nights keep burning. Somebody told me when I was 12 years old, stay true to yourself, don't buy that fool's gold. Keep your head up, keep your feet on the ground. Do what you want before a time runs out. Cause as the days keep passing, nights keep burning. Try your best to stop it, but the world keeps on turning. Told me when I was 21, you can't go back and change the things that you've done. So I keep on moving straight ahead, cause time keeps ticking. I hate slowing down yet. Cause as the days keep passing, nights keep burning. Try your best to stop it, but the world keeps on turning. Ooh.
un nouveau bluesman qu'on applaudit ici pour sa toute première apparition dans Sweet Home Chicago. Il s'appelle Seth Rosenblum. L'album s'appelle Keep On Turning. Et puis, ça nous vient d'outre-Atlantique. Voilà, on poursuit avec une petite dédicace à notre troisième invité qui va intervenir juste après ce titre-là, justement, Yann Charles, dans notre série Les photographes du blues. Voici pour toi un titre que tu m'as réclamé, mais pas forcément dans cette version-là. Voici The Thrill Is Gone, avec bien sûr B.B. King, mais un autre invité que tu vas reconnaître immédiatement. Vous avez reconnu l'invité de B.B. King sur ce titre, c'était bien sûr Eric Clapton, The Thrill Is Gone. Voilà, ça c'est pour faire plaisir à tous nos auditeurs, également à Yann Charles qui est notre troisième invité. Yann, bonjour, comment vas-tu ?
Salut Marc. Ça va.
Larsen, désolé, on était trois en fait sur ce coup-là avec Monsieur Larsen. Yann, on avait tout à l'heure Philippe Fernandez, on avait également Thierry Anctil, et là, maintenant on n'est plus à Caen, on n'est plus à Paris. Si, on est à Paris, en région parisienne ou du côté de Compiègne, dis-moi.
Ouais, côté de Compiègne, dans le Compiègnois.
Dans le nord, on va dire dans le nord de Paris, peut-être. C'est quoi, c'est la Picardie ou c'est l'île de France là où
Non, Picardie.
Très bien.
Enfin, Yann. Haute-France maintenant, dit plus Picardie.
Exactement. On va mettre quelques années à s'habituer, je pense, mais c'est pas très grave. De l'autre côté, la Normandie, ça a été facile à trouver comme nom, hein, voilà pour première parenthèse. Il n'y a pas de frontière quand on aime le blues, qu'est-ce que tu en penses, Yann?
Non, il n'y a absolument aucune frontière. Le blues, on va dire des trucs bateaux, mais le blues est international et national, donc oui, effectivement, aucune frontière.
Et quand on aime le rock'n'roll aussi, je sais que c'est ton cas, parce que j'ai l'impression que ton cœur balance un petit peu entre, d'un côté, le rock'n'roll pur et dur, d'un autre côté, le hard rock, le métal, et puis toutes les musiques sœurs, et également le blues.
Mais oui, je suis parti du blues, si tu veux, et effectivement, enfin, après, tu t'ouvres vers d'autres musiques, et puis, même si mon cœur reste toujours blues, effectivement, je me suis orienté vers d'autres... musicalement et puis au niveau des photos, effectivement, pas mal d'autres choses. Ouais.
On va en parler, Yann, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut te trouver sur le Cahors Blues Festival comme sur le Hellfest.
Exactement. Voilà, c'est généralement quand je peux, c'est exactement ce qui arrive. Souvent aussi chez Michel Raymond, tu vois, à Tremblay ou alors dans les grandes salles. Enfin voilà, quoi, ça peut être. Du moment que ça me plaît, c'est ça surtout c'est le plaisir en fait d'être. D'être devant une scène et devant des artistes.
Très bien. Yann, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, dire comment tu en es arrivé d'abord à la photo, comment est-ce que c'est devenu une passion peut-être dévorante ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien.
Un peu, ouais. Je crois qu'il m'a demandé ça à ma femme, mais un petit peu, ouais, effectivement. Comment j'en suis arrivé à la photo? En fait, moi, je viens du Sud, je suis de la région marseillaise.
Ça ne s'entend pas du tout.
Non, du tout. Et j'ai toujours aimé la musique, le blues en particulier. Tu sais, j'ai connu les grandes époques du blues ça y est, j'ai perdu le nom. Dans le sud de la France, je me souviens plus, et j'en parlais tout à l'heure.
À Bagnols, non?
Voilà, Bagnols. J'ai connu les grandes époques du Bagnol blues et puis beaucoup de blues. Mais j'étais pas encore dans la photo, c'était plus la musique. Et la photo est venue beaucoup plus tard. Ouais. Voilà, je faisais des photos.
Alors, tu faisais des photos, mais en amateur, et ensuite tu t'es dit, tiens, je vais essayer de me perfectionner, ou c'est venu petit à petit?
Non, c'est venu petit à petit, si tu veux. Après, quand je suis parti de la région, quand je suis monté en région parisienne pour le boulot, j'avais arrêté d'écouter de la musique. Et c'est B.B. King, justement, que tu passais tout à l'heure, qui m'a redonné le goût à la musique. Je suis allé le voir à Bercy, et ça m'a, tu vois, l'étincelle est revenue tout de suite. Et de là, je suis allé au One Way, que je connaissais de nom. Et One Way Café, tu sais, bon, tu connais bien, voilà.
J'ai connu.
Et voilà. Et puis là, la passion du blues, les connaissances, entre autres avec Xavier et Alberghini, ont fait que j'ai tilté tout de suite et sur la musique et sur la photo, puisque lui déjà faisait de la photo. Donc je me suis essayé à la photo, et puis c'était pas trop mal, on m'a dit, donc j'ai continué là-dedans, quoi. Je me suis perfectionné un petit peu tout seul.
Voilà, même si tu n'es pas toujours encouragé par la hiérarchie de Zikazik.
Oh, on va pas rentrer dans le polémique, mais bon, c'est le boss, je peux rien dire.
C'est vrai. Petit clin d'œil à l'ami Fred Delforge, qui sera également l'invité d'une émission dans un mois, dans cette série, les photographes du blues. Alors, photographe du blues, c'est pas franchement une étiquette qui te colle, puisque tu aimes plein de styles musicaux, mais en fait, tout part du blues, finalement.
Ah oui, de toute façon, le blues, quoi qu'il arrive, le blues restera ma musique de prédilection. Hein. C'est, tu vois, quand on en a parlé un petit peu avant... Voilà, les artistes, moi, ça reste toujours B.B. King, ça va être Stevie, ça va être... Voilà, le blues reste ancré en moi, effectivement, ouais.
Alors, les meilleurs souvenirs, j'ai envie de dire, de shooting, quand tu es dans le pit, hein, on va employer tout ce vocabulaire, parce qu'en tant que photographe, il y a des choses à partager entre photographes, mais peut-être aussi avec les néophytes que nous sommes tous. Qu'est-ce que c'est être photographe accrédité sur un concert, sur un festival, par exemple dans une grande salle parisienne? Ça représente quoi?
Alors c'est assez particulier parce qu'effectivement t'es à la fois spectateur, mais en même temps il faut quand même que t'arrives tu restes concentré quand même sur ce que t'as envie de faire, mais t'as toujours le côté fan qui fait que voilà, t'es là, t'es devant, quoi. T'es quand même un privilégié, t'es quand même au plus près de la scène, au plus près de l'artiste, t'as la chance de pouvoir le prendre en photo, alors que généralement c'est interdit. Donc c'est tout ça qui fait que c'est un privilège qu'on vit, hein. Faut être honnête, c'est un privilège qu'on vit. Bon, même si moi, c'est de la passion pure, c'est pas mon métier, c'est de la passion pure, mais pour un passionné, tu vois, te retrouver à 2 mètres de Buddy Guy ou te retrouver devant B.B. King quand tu as toujours adoré ces gars, que tu as tous leurs albums à la maison.
Oui.
Voilà, voilà, comme disent les jeunes, c'est un kiff total, quoi. T'es devant eux, quoi.
Buddy Guy, B.B. King, voilà les premiers artistes que tu nous cites, des grands souvenirs, j'imagine, pour toi. Est-ce que ça a été possible de leur parler, d'aller échanger avec eux?
Non, échanger avec eux, non, mais c'est vrai que c'est deux gros souvenirs. Je me souviens de B.B. King, la première fois que je l'ai fait en concert, c'était à Nice. Bon, il commençait déjà à être un petit peu fatigué, mais bon, voilà, t'es devant B.B. King, quoi, t'es devant une légende, t'es à 3-4 mètres de lui, pas qu'il te regarde, tu sais pas qu'il te regarde, mais t'es là, quoi, et puis Buddy Guy, j'ai un souvenir énorme d'un concert à Buddy Guy, d'ailleurs, j'étais avec Fred Delforge, c'était en lien où, tu sais, t'as une communion totale avec le mec, quoi, tu vois, je sais pas comment, c'est très difficile à expliquer,
ouais.
tu sens ce qu'il va faire, tu sais ce qu'il va faire, et tu appuies au moment où tu sens le truc, quoi. Et là, je me souviens de ce concert en Indien qui avait été, pour moi, un de mes plus grands souvenirs de photos, même si les photos sont peut-être pas grandioses, mais le kiff que j'ai eu à comprendre sa musique, à ressentir sa musique quasiment en même temps que lui, c'était énorme, quoi.
L'appareil photo, c'est un instrument qui te permet d'écouter les concerts différemment, d'en profiter différemment, de les vivre autrement.
Alors, c'est très... En fait, si tu veux, t'as pas l'impression de réellement écouter la musique, mais en même temps, tu la vis. Si tu veux, tu cherches le truc qui fait que... c'est difficile à expliquer comme ça. C'est un feeling, en fait, que tu as. T'as pas l'impression de réellement l'écouter, mais tu la ressens en même temps que le mec, quoi, tu vois. Quel que soit le groupe, que ce soit du blues, que ce soit du metal, que ce soit du rock ou du reggae ou autre chose, il y a des fois, si tu accroches la musique, tu ressens... Moi, j'arrive à ressentir ce que le gars va peut-être faire, quand est-ce qu'il va sauter, quand est-ce qu'il va envoyer un accord ou quand est-ce que je dois appuyer, quoi. Et ça, c'est le... Voilà, c'est ce que je recherche, c'est cette adrénaline-là que je recherche, parce que des photos... Tout le monde fait des photos, des très bonnes photos, il y a des super photographes, mais arriver à accrocher un truc qui fait que tu te dis, putain, ouais, il y a un truc dans son œil, il y a un truc dans son... Voilà, c'est ça la recherche.
Ça représente 1% des photos que tu fais, ça, ou même pas, je sais pas.
Non,
un peu plus.
C'est pas, ouais, un petit peu plus, c'est pas tout le temps, ça dépend ce que tu vas faire, en fait, si tu veux. Il y a des groupes auxquels tu vas ressentir des trucs beaucoup plus forts que d'autres, d'autres un peu moins, donc, mais voilà, c'est là que tu dois essayer de chercher quelque chose, quoi.
Tu te sens capable d'aller voir un concert d'un groupe que tu n'aimerais pas, mais pour lequel tu aurais une commande de photos?
Je le fais, si tu veux. Je le fais quand je suis en festival. Tu vois, quand tu es accrédité sur un festival, tu te dois d'aller faire les photos même de gens dont tu n'apprécies pas vraiment la musique. Après, ce sont des artistes. Toi, tu es là pour essayer de chercher quelque chose d'autre. Tu vois, quand tu fais le Main Square, par exemple, il y a des artistes que j'aime bien au Main Square, puis il y a des artistes... bon, c'est pas ma musique, mais bon... T'es là, le challenge, c'est d'arriver à trouver quelque chose. Voilà, c'est ça. Bon, j'irai pas faire un concert que de ça, tu vois. Si l'artiste me plaît pas, je vais pas demander une accréditation sur un artiste que j'aime pas. Par contre, c'est dans un festival, t'es invité, t'es accrédité, tu te dois quand même, t'as un minimum quand même de respect à avoir par rapport aux personnes qui sont sur scène, quoi. Voilà. Mais non, j'irai pas voir quelqu'un, j'irai pas faire des photos de quelqu'un que j'aime pas.
Voilà, t'irais pas exprès.
J'apprécie pas la musique,
ouais. Ça reste de la passion avant d'être peut-être une commande commerciale, je sais pas.
Ouais, c'est ça, tu vois, moi je suis dans le photographe passion, c'est pas mon business, c'est pas, voilà, bon, je dis pas que si quelqu'un m'achète une photo, je vais pas la vendre, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas le but recherché n'est pas de vendre la photo, le but recherché est d'arriver à sortir la belle photo quand on te dit que t'as fait une belle photo, ou que toi tu ressentes comme quoi t'as fait une belle photo, quoi.
Yann, il y a d'autres photographes qui ont été et qui vont être interviewés dans le cadre de cette série d'interviews. Il y aura Evelyne Balliner, Fred Delforge, on en a parlé, Alain Yo, Jacques Pixel. Il y a eu Sylvie Bosque il y a 15 jours. Sylvie te passe des grosses bises de l'aviron. Voilà, c'est le message qu'elle te donne sur le Facebook. Elle te passe le relais comme ça à 15 jours d'intervalle. Par rapport à tous ces gens-là, il y a un point commun. On parlait de Zikazik tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'équipe? Comment est-ce que tu es arrivé à connaître un garçon aussi, hyper actif que Fred Delforge?
Ça s'est fait au One Way, tu vois. Enfin, quasiment tout s'est fait au One Way, en fait. Si tu veux, ça a vraiment été le centre ça a été le début, ouais. Franchement, ça a été le début. Ça a été grâce à Xavier Alberghini, qui est un excellent photographe, même s'il a arrêté la photo. entre guillemets. Mmh. Donc j'aimerais bien qu'il s'y remette un petit peu, ce grand monsieur. Et c'est lui qui m'a présenté Fred. C'est lui qui m'a dit, oui, écoute, tes photos, voilà, il y a quelque chose, quoi, si tu sais un petit peu écrire et tout ça. Et qui m'a présenté Fred. Et puis on a essayé une fois ou deux avec Fred. Et puis ça s'est resté. Ça a collé parce qu'il faut qu'il y ait de l'amitié, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Que si c'est pas pour pas accrocher, tu sais, c'est pas un business. Donc si tu t'entends pas, ça sert à rien de faire un truc avec qui tu t'entends pas. Et malgré que ce grand gaillard, grand large, me chambre énormément, bon, mine de rien, on l'aime bien au village, hein, le monsieur.
Voilà, ce sera peut-être ton mot pour Fred, qui sera l'invité de l'émission dans un mois. On parlait d'artistes pour lesquels tu as un souvenir tout particulier. Est-ce qu'il y a des artistes que tu rêves de photographier, qu'ils soient morts ou vivants d'ailleurs, puisqu'on est dans le rêve, Yann?
Ah oui, bah, j'ai eu la chance de faire Buddy Guy, j'ai eu la chance de faire BB King. J'espère un jour, je l'ai vu en concert, mais pourquoi pas un jour, mon rêve absolu, ce serait Eric Clapton, c'est clair.
Ah oui.
J'aimerais faire Eric Clapton. Stevie, j'aurais adoré Stevie. Stevie Ray Vaughan, ça reste. C'est lui, je crois, qui m'a remis les pieds au blues réellement, quoi. C'est avec son nouveau son à son époque. Il m'a redonné, qui a redonné un coup de fou au blues, et c'est sûr que ça, c'est une grosse perte. Voilà, donc ça, il y a des gars comme ça. Après, comme ça, de tête. Non, après, il y en a que j'ai eu, tu vois, l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir faire des groupes que j'avais jamais réussi à faire, comme Maiden, comme. Marilyn Manson, qui certes c'est pas du blues, mais bon, tu vois, ça représente quand même quelque chose, et te retrouver au pied de ces scènes là c'est quand même assez énorme, quoi.
Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé, au vu de photos que tu fais paraître à droite à gauche, d'avoir des commandes de groupes, par exemple, pour faire des pochettes d'albums?
Alors j'ai eu, ouais, effectivement, j'ai eu la chance de côtoyer, enfin de rencontrer, grâce à Nadia, j'ai eu la chance de rencontrer Tony Joe White.
Nadia Sarai-Dessagne, c'est ça.
Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer Tony Joe White, ouais. qui était un gars absolument formidable.
Qui vient d'Oquitaine, effectivement, ouais.
Voilà, qui fait partie de mes références musicales, et avoir la chance de rencontrer ce mec, faire des photos de lui. J'avais fait une photo au Bataclan, et une de ses photos a été gardée pour faire la pochette de son album, le Live à Amsterdam.
D'accord.
Et voilà, et ça a été un échange superbe avec lui, puisque j'ai offert la photo, et ce mec, il te dit qu'il était plus impressionné par la photo que par la musique qu'il fait, si tu veux. C'est un peu con, quoi, tu te dis. Voilà. Donc j'ai eu ça, et j'ai eu la chance aussi d'avoir une photo qui a pas fait de pochette d'album, mais qui a été achetée par Peter Frampton. Et ça, voilà, quoi. Ça, c'est quand même, c'est énorme, quoi. C'est monsieur Peter Frampton.
Effectivement. On se souvient de Show Me the Way, c'était en 76, ça nous rajeunit pas, ça. Hein.
Dis-moi. C'est clair, ouais.
Dis-moi, tu viens d'évoquer un mot clé, hein, par rapport à cette interview, Yann, c'est le mot de Bataclan. Il y a 3 ans, il s'est passé la tragédie que tout le monde connaît. Il se trouve que tu étais sur place pour prendre des photos du groupe juste avant la tragédie. Tu as quitté la salle, je ne sais pas, peut-être 10 minutes avant que ces enculés n'arrivent pour tuer tout le monde. Après 3 ans, qu'est-ce que tu retiens de ce genre d'expérience, entre guillemets?
Bon, je vais dire un truc banal, hein, mais bah, je suis là, quoi.
Ouais.
Voilà, je suis là. Il y en a qui en sont pas sortis, moi je suis sorti. Voilà, c'est pas d'autres trucs. Ça a créé des relations assez particulières avec d'autres photographes. Tu vois, mon collègue Julien Mecky, avec qui on a vu le dernier verre avant de sortir tous les deux. Au lieu de monter au balcon faire des photos, on est sortis. Voilà, si on était monté au balcon faire des photos, je sais pas. Ouais. Je sais pas si on se parlerait.
Ce serait
toujours
pas
la même
répondre,
histoire,
ouais.
Tu vois. Voilà, après, la chance de tous les photographes qui étaient là ce soir-là sont sortis. Blessés ou qui sont restés dedans. Voilà, bon, moi je suis sorti avant, j'ai eu la chance de sortir quelques minutes avant que, comme tu disais, ça rentre, et puis voilà, quoi, je suis là, et un peu de mal à m'en remettre pendant quelques temps, ça reste un petit peu, mais bon, voilà, il faut vivre, il faut continuer. J'ai pas remis les pieds au Bataclan, je sais pas si je remettrai les pieds.
C'est aussi la question que j'allais te poser, voilà.
Non, j'y suis pour repasser une seule fois devant en voiture avec ma femme. Mais même à pied, je suis pas repassé devant. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'y retournerai. J'ai pas envie. Pour l'instant, j'ai pas envie. Ouais. C'est tant que dans la tête, t'as pas envie d'y aller, quoi.
On peut comprendre. On peut comprendre. On va pas terminer l'interview sur cette note tragique, Yann. Tes prochains concerts, les endroits où tu as envie d'aller maintenant, parce que je sais que ça fait plus d'un mois que tu piaffes, vu que tu étais blessé. Tu n'as pas pu sortir pendant tout le mois de novembre, là, c'était impossible pour toi. Est-ce que tu aimerais bien faire un petit tour au Souboc, par exemple, du côté de chez nous?
Ah, faudrait que je vienne un de ces jours. Je t'ai promis un jour que je viendrai, faudrait que je vienne. Il faut vraiment que je trouve un moment pour venir. Trouver un petit week-end où on puisse monter. Effectivement, c'est pas évident. On n'est pas très très loin, mais on n'est pas à côté. Et voilà. Non, mais je t'ai promis que je viendrai. Donc, je viendrai au Sous-Bock.
Yann, si tu veux, je te passerai les dates. On verra ça en antenne, bien sûr. Et puis, on a l'ami Thierry Anquetil qui était invité de la première heure, qui va probablement s'y produire en 2019. Ce sera peut-être une des occasions pour lesquelles tu viendrais jusqu'en Normandie.
Ah bah écoute, oui, avec grand plaisir. Franchement, oui, avec grand plaisir.
Yann, est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser en termes de matériel? Est-ce que tu as une marque favorite en termes d'appareils photo? Je sais qu'il y a l'école Nikon, l'école Canon. Ouais. Tu fais partie de laquelle, toi?
Moi, je suis Canon, mais j'ai absolument rien contre Nikon. C'est juste que ma première... Mon premier appareil photo était un Pentax, en fait, si tu veux. Ouais. Donc, je suis parti sur des Pentax. Je suis repassé après chez Canon parce que Pentax devait arrêter des productions, puis ils ont continué. Bon, peut-être que j'ai bien fait, mal fait, je ne sais pas. Non, j'ai rien de plus à dire. Je suis très content de mon matériel. Je suppose que les gens qui ont des Nikon sont super contents de leur matos. Bon, l'essentiel, c'est le plaisir qu'on a à partager des trucs dans le pit avec tous les potes photographes, qu'ils soient du blues ou pas blues. Voilà, moi, c'est plus cette ambiance-là qu'il y a. Où on est dedans, on rigole, c'est cette ambiance qui est à l'intérieur. C'est très difficile à expliquer aux gens qui y sont pas, mais on a une ambiance particulière et c'est vraiment super sympa. Quoi.
Voilà, donc la fameuse question pour les guitaristes, êtes-vous plutôt Gibson, plutôt Fender? La fameuse question pour les amateurs de rock, est-ce que vous êtes plutôt Rolling Stone, plutôt Beatles? Toi, tu es ni con ni bon,
je suis...
Voilà, non, en fait, le matériel, c'est quelque chose qui compte assez peu pour toi ou je me trompe?
Non, ça compte, effectivement, ça en fait partie, si tu veux. Maintenant, on a des conditions dans les salles qui sont que les lumières sont très basses, et les jeux, les spectacles, le spectacle lumineux que donnent les groupes, nous, effectivement, c'est assez délicat, donc il faut quand même un matos quand même assez important. Mais ça reste, après, une bonne photo peut être faite avec un très, très... Tu peux avoir le meilleur matos. Si tu ne sais pas faire de photos, tu ne sais pas faire de photos. Voilà, c'est ce qui se dit.
On était dans les comparaisons tout à l'heure, Yann. Il y a un truc qui se passe hors antenne dans le studio du 666. Tu connais Denis Fabre?
Oui.
Tu connais Garcimore?
Exact.
Bon, Denis Fabre, c'est moi. Garcimore, c'est Thierry Anquetil, de l'autre côté de la vie. Thierry va te faire le con, avec Thierry Langrand. Voilà, des passionnés de blues, des furieux, puis qui font les oives dès qu'ils sont lâchés un petit peu. C'est pas évident de driver une petite interview comme celle-là, mais bon, voilà, Yann, écoute, est-ce qu'il y a juste, pour conclure, ton desiderata pour 2019, des concerts que tu as prévu d'aller shooter, d'aller photographier?
Alors écoute, je me suis pas encore mis vraiment dedans, mais bon, là, j'ai
vu que... Parce que là, ça y est, tu ressors. Tu ressors maintenant, c'est pour ça, il faut profiter, ça y est,
j'ai repris, là, j'ai repris un petit peu. J'ai fait un concert, j'ai fait des Blackstar Cherry la semaine dernière à l'Élysée Montmartre. C'était très, très bien, avec surtout Monster Truck en première partie qui ont été énormes. C'est plus hard rock.
Ouais.
Je vais terminer l'année, je pense, avec Molly Hatchett et sûrement Uli John Roth.
Oui, ça change un peu de Richard Kederman, effectivement. Hein.
Voilà, c'est sûr. Et puis l'année prochaine, après, il y a des super belles affiches au Hellfest. Donc, je pense que ça va être le festival phare une fois de plus.
Ouais.
Je ne pense pas pouvoir malheureusement me libérer pour Cahors, parce que j'ai toujours le souci de ne pas pouvoir poser mes vacances.
Oui, parce que rappelons-le, ça n'est pas ton métier. Tu as un métier.
Hein. C'est ça, voilà, j'ai un métier. Malheureusement, très difficile pour moi d'avoir des vacances au mois de juillet. Donc je regrette parce que j'adore Cahors, j'adore la ville, les gens. Ce festival fait partie de un peu de mes racines. Et puis dès que je peux, j'y vais. Mais là, malheureusement, je pense que pour cette année, ce sera un petit peu délicat.
D'accord. Yann Charles était l'invité de ce 1048e Sweet Home Chicago. Merci à toi. Et puis, continue à bien te remettre et aller nous photographier des bluesmen, des rockers, comme tu aimes le faire. Merci à toi, Yann.
Merci, Marc. Et puis, bonne émission. Et j'espère à très bientôt.
À très bientôt sur la route du blues et du rock. On va continuer avec un truc qui va te faire plaisir, je pense, Yann. Tu parles Stevie. Voici un truc qui ne va pas te laisser insensible. C'était, 1980, 1er avril 1980, à l'époque où tu n'étais pas encore vraiment connu, un live de Stevie Ray Vaughan. Ça s'appelle Love Struck Baby. Ça te va? On y va. Salut, Yann.
Merci, Marc.
Merci. I love you, baby, and I know just what to do. Stevie Ray Vaughan, enregistré live à Austin. Stevie Ray Vaughan qui nous emmène tranquillement jusqu'à la fin de cette deuxième heure. Merci encore à Yann Charles pour cette interview. On avait Thierry Onctil, Philippe Fernandez et Yann Charles aujourd'hui. L'émission se termine non pas dans deux minutes, mais dans une heure et deux minutes, puisque la troisième heure jusqu'à 16h va nous permettre d'écouter quelques nouveautés, quelques vieilleries et vos dédicaces. En attendant, voici Fireplace, toujours extrait de Wide Awake de Rosedale.